Mémoire vive,
présentée par Stéphane Bou
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Dans ses mémoires, le prestigieux acteur et metteur en scène Jonas Turkow, rescapé du ghetto de Varsovie et figure du comité central des Juifs dans la Pologne d'après-guerre, écrit « Le 8 mai 1945 s'achevait la guerre avec l'Allemagne. Ce jour-là, le monde célébrait la victoire finale sur les modernes 1 de Hitler. La joie était immense. En ce jour historique, je me trouvais à Lodz. Je débordais de chagrin et de la douleur qui s'étaient accumulées en moi. C'était seulement maintenant, une fois la guerre finie, que nous pouvions tirer un trait sous la dernière somme, faire les comptes et constater l'ampleur de la catastrophe. » Ce beau texte de Turkow dit bien le clivage des affects des Juifs polonais en 1945, quand la joie immense de la victoire contre le nazisme correspond aussi au débordement de chagrin et de douleur devant l'ampleur de la catastrophe qui se révèle. Le titre français du livre de Turkow, d'où il est tiré, « En Pologne après la libération, l'impossible survie des rescapés juifs », résonne avec celui de l'historienne Audrey Kiszewski, paru en juin de cette année, « Les survivants, les Juifs de Pologne depuis la Shoah ». Il résonne aussi avec la vie même de Rachel Hertel, grande traductrice et spécialiste de la langue et de la littérature yiddish, puisqu'elle est née en Pologne en 1939, passe sa petite enfance en URSS avant de revenir vivre 2 ans en Pologne, qu'elle quitte avec sa famille pour Paris en 1948. Audrey Kiszewski et Rachel Hertel sont avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous deux. Et bonjour. Merci beaucoup de participer à 2 émissions que nous consacrerons cette semaine et la semaine prochaine à l'histoire des Juifs polonais depuis la Shoah. Dans la première émission, nous évoquerons ensemble la période qui va de l'immédiate après-guerre jusqu'à la fin des années 40, période où, comme l'écrivait Turkow, il faut tirer un trait sous la dernière somme et faire les comptes. Alors, est-ce qu'on peut d'ailleurs commencer par faire les comptes, pour reprendre l'expression de Turkow, Audrey Kiszewski, combien reste-t-il de Juifs en Pologne après la guerre? Qui sont-ils? Car il ne s'agit pas d'une population homogène. Tout de suite, dans votre livre, au sein des survivants, vous distinguez d'une part les rescapés et d'autre part les réfugiés dont faisait partie Rachel Hertel.
Oui, en effet, c'est toujours très compliqué de faire un bilan chiffré, hein, bien évidemment. C'est sûr que l'essentiel, l'immense majorité du judaïsme polonais a été exterminé durant la guerre. On était à plus de 3 millions de juifs polonais en 1939. On estime à peu près 200-250 000 le nombre de survivants. Et alors, là aussi, c'est difficile de compter parce que comment on estime cette population, c'est ceux qui s'enregistrent dans les comités, les comités juifs qui se reconstituent un peu partout dans le pays, mais il y en a qui s'enregistrent, d'autres qui ne vont pas s'enregistrer, qui vont partir tout de suite. Donc les comptages sont compliqués.
On s'enregistre à un moment où les familles dispersées essayent de se retrouver aussi. Ils ont intérêt à s'enregistrer, on pourrait le dire, puisqu'ils se cherchent. Turkow crée une émission de radio qui s'appelle « Le coin de la recherche des proches ». On se cherche dans cette Pologne-là.
Oui, tout à fait. S'enregistrer, c'est effectivement dire qu'on est vivant et dire éventuellement à ses proches qu'on est vivant. C'est aussi avoir la possibilité d'avoir à manger, d'avoir des vêtements, d'avoir peut-être un travail, un toit sur la tête. Donc c'est nécessaire et c'est encouragé. Mais effectivement, il y a aussi la crainte de s'identifier comme juif et l'insécurité qu'il y a à être identifié comme juif après-guerre. On pourra en reparler. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Donc on estime à peu près à 250 000 le nombre de ces survivants. Et alors effectivement, une population qui n'est pas homogène, puisque l'immense majorité, hein, 180 à 200 000 sur ces 250 000, sont des Juifs qui reviennent. Parce que s'ils sont vivants, survivants, c'est qu'ils ont passé la guerre, pour l'essentiel, en Union soviétique, en fait, parce qu'ils se sont retrouvés ou parce qu'ils ont fui à l'est du pays dès 1939, et donc la partie orientale de la Pologne qui était occupée par l'Union soviétique entre 1939 et 1941. Après, il y a l'attaque de l'Allemagne nazie sur cette partie orientale. Et ces Juifs qui étaient à l'est de la Pologne vont pouvoir, hein, dans une majorité, être ensuite déplacés vers l'intérieur des frontières de l'Union soviétique, où ils vont avoir aussi une existence rocambolesque, aussi dangereuse, mais quand même un peu moins mortifère que, évidemment, rester sur les territoires polonais. Donc, les rescapés qui vraiment ont survécu en territoire polonais, rescapés des camps de concentration ou cachés sous une fausse identité, des faux papiers, dans des familles ou simplement livrés à eux-mêmes, sont vraiment une toute petite minorité dans cette minorité, quelques dizaines de milliers tout au
D'accord.
plus.
Alors, les rapatriés, donc ceux qui reviennent du RSS, viennent continuellement pendant plusieurs années. Hein, c'est pas une seule vague très tôt, c'est très progressivement. Vous, Rachel Hertel, vous étiez au Kazakhstan pendant la guerre,
oui.
Et vous revenez... je crois en l'été 1946, c'est bien ça.
C'est ça. Bien, de toute façon, d'après un nombre d'auteurs que j'ai lus, en Pologne même, il y a à peu près 50 000 survivants. Et après la guerre, cachés de diverses manières que vous avez évoquées. Ceux qui reviennent d'Union soviétique sont à peu près 250. Ce qui, en gros, en fait, ça fait une 250 à 300 maximum de survivants qui reviennent en Pologne. Alors, nous, on a été déportés au Kazakhstan dans les circonstances suivantes. C'est que mon père, ayant été bundiste, est arrêté après le pacte germano-soviétique par l'occupation du lieu de notre habitation par l'armée rouge. Il est arrêté comme ennemi du peuple et ma mère et moi, nous sommes déportés, déplacés à ce moment-là au Kazakhstan, en Sibérie donc, et en tant que famille d'un ennemi du peuple. Et ma mère a eu le bon sens de garder sa nationalité polonaise, parce que si elle n'avait pas gardé sa nationalité polonaise, elle n'aurait pas pu revenir.
Parce que l'alternative, ça aurait été quoi ?
De rester. Ceux qui n'ont pas de prendre la nationalité soviétique
d'accord.
et de rester en Union soviétique. Or, elle a gardé sa nationalité polonaise comme beaucoup, la plupart des gens qui sont revenus l'avaient gardée. Donc nous revenons en 1946 et nous nous arrêtons à Wrocław. Et c'est là qui est notre ville de transit avant d'aller à Lodz où effectivement se regroupait la grande majorité des juifs revenus d'Union soviétique et des juifs rescapés en Pologne.
Alors je crois savoir, parce que vous me l'aviez déjà raconté, que le voyage entre le point d'arrivée en Pologne jusqu'à Lodz, je prononce ainsi, n'a pas été... banal, et renvoie à ce que disait Audrey Klichevski tout à l'heure, à savoir qu'il y avait tout de suite un climat d'insécurité.
Absolument. Le climat d'insécurité était tel que ma mère, qui était enfin brune et typée juive, n'a pas voulu voyager dans le même wagon que moi ou dans le même compartiment que moi, qui était blonde et qui pouvait passer pour polonaise. Et donc nous avons fait le voyage entre Wrocław et Lodz, si vous voulez. On l'a fait dans des compartiments différents. Je n'ai pas de souvenir, comme je vous l'ai déjà dit, mais c'est ce qu'elle m'a raconté. J'ai dû avoir très peur, évidemment, étant enfant et toute seule, mais je n'en ai pas le souvenir. Elle me l'a raconté et nous arrivons à Lodz, donc, à l'automne 1946.
Vous resterez 2 ans.
Exactement, nous resterons 2 ans avant de... demandé à partir en 48, mon père d'abord et ma mère et moi ensuite, mon père adoptif et ma mère et moi, nous partons plus tard avec un des derniers visas de 48 parce que après la prise de pouvoir de Beyrouth, évidemment, les sorties étaient interdites, donc nous obtenons grâce à un de nos amis qui étaient membres de la nomenclatura communiste. Et donc, nous avons obtenu ce visa et nous sommes venus en France donc en 48, fin 48 et ma mère et moi en février 49.
J'imagine, Audrey Klichevski, que cette histoire, elle est commune à celle de beaucoup que vous avez pu étudier. Alors, ce double retour, enfin, ce retour en Pologne et ensuite ce départ depuis la Pologne... Ma question, c'est, il y a un chapitre qui s'intitule « Rester ou partir ». Autrement dit, on a le sentiment que pendant, en même temps, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y a quelque chose comme une hésitation qui s'installe entre, effectivement, la croyance qu'ont certains qu'il va être possible que revienne, renaisse une communauté juive au sein de la Pologne qui va être viable, et le sentiment, en même temps, que ça va être absolument impossible. Et d'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse à propos d'un film qui s'appelle « Nous, les survivants », qui est très beau parce qu'on a le sentiment qu'à la fois, le film fait une déclaration donc qui est tournée en 1947 et qui allotche et qui montre comment les Juifs se réorganisent en ateliers, en associations, travail. On voit une forme de vitalité assez exceptionnelle de tous ces gens, les théâtres. Enfin bon, on a le sentiment qu'il y a, il y a quelque chose comme une croyance en un avenir possible de leur présence. Et en même temps, on sait, parce que même les personnes mêmes qui font le film, en dehors du film, témoignent d'une espèce de sentiment qui va les envahir de plus en plus, d'une impossibilité absolue. Donc un clivage pendant 4-5 ans, quelque chose comme ça, et qui réfléchit le destin de Rachel, qui arrive et repart tout de suite.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est vrai qu'en écoutant Rachel Hertel, j'étais frappée par le fait que, oui, toutes les étapes qu'elle décrit, qu'elle a vécues, sont véritablement emblématiques hein, de ce qui se passe pour une majorité de ces survivants et de leurs familles. Hein. C'est-à-dire, effectivement, ce retour d'Union soviétique qui s'échelonne au compte-gouttes dès l'accord entre les deux pays qui est signé en 1945 et de façon plus massive dans les 6 premiers mois de l'année 46, hein, avec effectivement une vingtaine de convois qui vont arriver, pas n'importe où, majoritairement destinés à repeupler, peupler les nouveaux territoires, parce que la Pologne a vu ses frontières changer hein, suite à configuration géopolitique, elle s'est déplacée vers l'ouest, hein, donc les territoires qui étaient allemands deviennent polonais, hein, dans la Silésie, donc Wrocław qui était évoqué, la Poméranie au nord, et c'est là qu'on va installer les rapatriés de l'Union soviétique, qu'ils soient juifs ou pas d'ailleurs, hein. Et donc, c'est pas innocent que votre train se soit arrêté à Wrocław. Et c'est vrai que c'est notamment en Basse-Silésie que des communautés juives vont être vraiment reconstituées par volonté politique de repeupler ces régions.
Mais la plupart d'entre eux ne voulaient pas quand même rejoindre les grands centres urbains, et Lodz en particulier.
Voilà, comme... et donc c'est pour ça que la suite de ce parcours est également emblématique. Donc certains vont rester hein, dans ces communautés et certaines localités, je pense à la petite ville de Dzierżonów par exemple, vont avoir jusqu'à peut-être 10 ou 20% de juifs dans ce, presque reconstitué un petit shtetl après-guerre, ce qui était plus imaginable du tout. Mais effectivement, beaucoup hein, vont vouloir aller soit dans retrouver les villes et les villages où ils habitaient avant-guerre, hein, lorsque c'est encore dans les frontières de la Pologne, et c'est en voulant aller dans ces villages, ces petites localités, que rapidement, ils vont se rendre compte que c'est plus possible, que c'est même dangereux, qu'ils ne sont pas bienvenus. Et donc, la seule manière, la meilleure manière d'assurer leur sécurité, c'est de se regrouper dans les centres urbains plus grands. Łódź va être l'un de ces centres, et particulièrement l'un des premiers où va se reconstituer une vie juive, avec les premières imprimeries, les écrivains, les intellectuels, les comités juifs vont
vous
se reconstituer d'abord à Łódź.
Vous parlez d'imprimeries, nombre de journaux, de quotidiens, d'hebdomadaires, mais c'est absolument vertigineux. Pour une population de 200 000 personnes, il y a des dizaines et des dizaines. Il y a une activité qui paraît absolument débordante.
Oui, c'est tout à fait le reflet de la diversité politique, parce que chaque parti politique, et il y en a une dizaine, chaque mouvement de jeunesse, chaque organisation avait son organe de presse. Donc on n'est évidemment pas dans des chiffres comparables avec ce qu'il y avait avant-guerre, quand il y avait une communauté de plus de 3 millions de juifs, mais par rapport à cette petite communauté de survivants, effectivement, c'est assez... Euh, assez étonnant hein, qu'on retrouve tout cet éventail qui va des communistes aux bundistes en passant par les sionistes.
Absolument. Ce qu'il y a de remarquable, c'est effectivement cet élan de vitalité qui anime où se créent des ateliers de couture, de cordonnerie, de peinture, le comité des écrivains et des intellectuels. Et avec l'espoir peut-être, enfin très, très clivé en fait, de pouvoir rester, de reconstituer une communauté juive en Pologne parce que c'était leur langue, avec le yiddish c'était leur langue et qu'ils ne se voyaient pas ailleurs. Ils espéraient recréer une vie en Pologne. Pour donner un exemple, mon père, par exemple, Moshe Waldman, a créé un journal qui s'appelait « Für unsere Kinder », pour nos enfants. Ce qui voulait dire qu'ils espéraient que les enfants qui naîtraient ensuite en Pologne pourraient lire en yiddish. Donc, il y avait véritablement un premier espoir très vivace de pouvoir rester. En fait, il a duré 2 ans. Je ne dirais pas jusqu'à 4-5 ans, parce que 4-5 ans, c'est déjà loin, mais 48 a été la première émigration massive, parce que, évidemment, le régime qui s'installait était un autre les régimes, c'était un régime communiste, et à la fois par peur de ce qui se passait, par les pogroms qui ont eu lieu à ce moment-là, notamment le plus célèbre, c'est le pogrom de Kielce, où il y a eu 50 victimes, et ce sentiment d'insécurité en même temps que cette vitalité qui fait contraste, malgré ça, les gens sont restés pendant 2 ans dans un certain espoir, et puis au bout de 2 ans, la plupart, enfin une grande majorité, a émigré.
Alors, on parle de sentiment d'insécurité tout à l'heure, mais c'est évidemment un euphémisme, parce que c'est beaucoup plus qu'un sentiment d'insécurité. Il y a des violences anti-juives continues, une persécution continue, il y a des dizaines et des dizaines de morts. Alors, là, Audrey Kichelski, c'est vraiment très intéressant de suivre pas à pas la manière avec laquelle vous montrez comment ces violences évoluent, vous vous interrogez qui, comment le pouvoir réagit. Est-ce qu'on a une idée, en fait, simple? Je pense que vous allez tout de suite me dire non, mais de qui perpétuait ces persécutions et ces meurtres, et comment, effectivement, parce qu'on a le sentiment, en fait, quand on vous lit, qu'il y a à la fois des groupes constitués, et qu'en même temps, toute la société, indépendamment des groupes déjà constitués, peuvent participer à cette violence. Donc c'est quelque chose comme, qui semble totalement, qui infuse toute la société.
Oui, et puis bon, cette violence, d'abord, elle est multiforme. Hein. On a évoqué tout à l'heure avec le cas très personnel, hein, du témoignage de Rachel Dard, des trains qui étaient attaqués, donc c'est ces convois de rapatriés d'Union soviétique qui, dans la première moitié de l'année 46, sont parfois l'objet de brigandage. Alors effectivement, on s'attaque à ces convois parce qu'on est dans un pays extrêmement démunis, c'est la guerre civile quasiment qui règne, donc on fait feu de tout bois et y a des actes de brigandage, mais ces actes sont quand même spécifiquement ciblés, c'est-à-dire que dans les trains, on va repérer ces groupes qui commettent ces violences savent très bien repérer au faciès, hein, si j'ose dire, les juifs parmi les rapatriés, et ce sont eux qui vont être ciblés prioritairement à la recherche de l'argent, de tous les biens qu'ils peuvent avoir, avec derrière hein, le préjugé antisémite que les juifs ont forcément plus d'argent.
C'est pas que du brigandage, c'est aussi des milices nationalistes qui...
Oui.
En même temps, j'imagine que tout s'entremêle.
Voilà, tout s'entremêle. Donc, il y a
des uniformes,
tout
je veux
à
dire.
Fait. Voilà, ce sont des gens en uniforme, effectivement, qui s'attaquent au train, qui s'attaquent également aux rescapés dans les villes et les villages où ils arrivent. Effectivement, il y a ces groupes. Alors, ce sont on va retrouver dedans tout un tas de personnages. Hein. C'est à la fois les restes de certains groupes de la résistance polonaise qui ont refusé la démobilisation et qui continuent de se battre contre le régime communiste qui se met en place. Et y a du coup aussi cet argument politique, enfin en tout cas cette légitimation politique où on prend les juifs comme étant les responsables de l'imposition de ce régime communiste, hein, avec le mythe d'un complot judéo-bolchevique. Donc les juifs et les communistes, finalement, c'est la même chose. Et donc, on peut tuer les juifs au nom de la lutte contre le communisme. Donc, ces groupes de résistance sont aussi empreints de tout ça. Donc, il y a ce motif politique, il y a ce motif économique. Et puis, effectivement, ça infuse toute la société qui participe ou qui, au moins, est un peu complice par son silence à ces violences, parce qu'il y a, effectivement, la persistance d'un code culturel antisémite, d'un code culturel plutôt d'anti-judaïsme chrétien, hein, qui n'a évidemment pas disparu pendant la guerre, voire qui a été renforcé, puisque les Polonais ont été aux premières loges des victimes, des persécutions dont ont été victimes leurs voisins juifs quand ils n'en ont pas tiré profit, voire pris part. Donc il y a tout ça qui se mêle, différentes strates, et il suffit parfois d'une étincelle, c'est-à-dire on a évoqué le pogrom de Kielce qui est le plus emblématique.
C'est
aussi
en juillet 46.
Juillet 1946, effectivement, ça marque un peu l'apogée de ces violences qui sont diffuses dès la fin de la guerre. Le plus médiatisé, parce qu'aussi le plus manipulé politiquement ensuite par le régime qui va en faire le fer de lance d'une lutte contre l'antisémitisme et en faisant un procès retentissant, mais finalement pas très concluant non plus, et en faisant de ce pogrom un acte politique qui émanerait de la réaction fasciste. Et donc voilà, on va décapiter cette réaction fasciste, et ensuite il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus d'antisémitisme, et c'est montrer que les Juifs pourraient être en sécurité dans cette nouvelle Pologne, mais la réalité est quand même beaucoup plus complexe, et surtout, il ne s'agissait pas pour le coup, à Kielce comme ailleurs, il s'agissait d'une participation qui allait bien au-delà de ces groupes militaires ou paramilitaires, hein, puisque c'est finalement la police supposée protéger les habitants juifs de cet immeuble à Kielce qui n'a pas fait son travail, qui s'est joint à la foule, excité par la réactivation d'un... Du mythe du crime rituel, donc quand même d'un mythe antisémite, enfin du moyenâgeux en fait, hein, où la disparition d'un enfant chrétien a tout de suite été interprétée comme un meurtre par les juifs pour utiliser le sang de cet enfant à des fins de leur rite religieux. Enfin, on revient à ces mythes moyenâgeux qui sont réactivés dans ce climat extrêmement instable de cette immédiate après-guerre.
Enfin, il faut quand même noter aussi la présence et l'espèce d'hostilité de la part de l'Armia Krajowa, c'est-à-dire l'armée nationale qui était restée pendant la guerre, qui a combattu les nazis et qui a été à l'origine aussi de ces attaques, et qui aussi a diffusé dans la société globale cette idée que les juifs étaient des ennemis du peuple à l'envers de ce que disaient les communistes, parce que les juifs vont prendre le pouvoir, comme vous avez dit, les judéo-bolcheviques, parce que effectivement un certain nombre de juifs qui rapatriés de l'Union soviétique étaient devenus des communistes qui étaient déjà avant la guerre et qui se sont renforcés en tant que communistes une fois en Union soviétique. Et il y avait à la fois l'anti-judaïsme traditionnel, comme vous avez indiqué, le meurtre rituel. Il y avait aussi l'antisémitisme et l'anti-judaïsme de l'Église qui qui a une place énorme dans le nationalisme polonais.
Dans le livre d'André Chkiszewski, l'analyse de la position, avec toutes ses ambiguïtés de l'Église, est très bien soulignée et très bien racontée. Hein. Oui. En effet, pardon, Rachel.
Oui, oui, non, mais c'était simplement ce que je voulais dire, c'est-à-dire que, comme vous avez dit, il y a plusieurs strates, il y a l'Armia Krajowa, il y a les bandits, tout simplement, et puis il y a la société globale qui est extrêmement hostile, et puis il y a cette accusation de judéo-bolchevisme, et toutes ces strates se superposent, ce qui fait qu'il y a eu une quantité de pogroms qui ont suivi l'arrivée des rapatriés.
Alors, il ne reste qu'une ou deux minutes avant qu'on reprenne la semaine prochaine la discussion. J'ai juste une question là, à ce moment-là de votre récit. On a le sentiment que le pouvoir communiste est profondément ambivalent et ambigu. Est-ce que vous pouvez dire, assez malheureusement, je suis désolé, rapidement, témoigner de cette ambiguïté. À la fois, vous rappelez qu'effectivement, après le pogrom de Kielce, il y a un procès, il y a des condamnés à mort, et en même temps, on se rend compte que parfois, ça les arrange aussi. Donc, il y a quelque chose qui, jusqu'en 48, ou au moment où quelque chose va être consommé, et où j'imagine, on pense que c'est terminé, une hésitation, ça serait ça le mot?
Oui, alors, impuissance ou effectivement ambivalence peut-être. D'un côté, effectivement, le régime communiste officiellement lutte contre l'antisémitisme. Il y a accorde pour la première fois dans l'histoire de la Pologne aux Juifs des droits égaux aux autres citoyens. Les Juifs peuvent occuper toutes les positions et certains auront des positions très élevées dans l'appareil de l'État. Les aide à la reconstitution de toutes ces organisations juives. Fait ces procès contre les auteurs de violences anti-juives, mais d'un autre côté, ces procès viennent tardivement, sont largement insuffisants, et quelque part, le gouvernement ferme les yeux sur une émigration massive qui permet finalement de régler le problème. Laisser partir les Juifs, ça laisse aussi le meilleur moyen peut-être de laisser partir ceux qu'on accuse d'être de collusion avec ce nouveau
pouvoir. Tout simplement, ça règle le problème pour eux.
Simplement.
Je vous remercie beaucoup, Audrey Kiszewski. Je rappelle que votre livre « Les survivants, les juifs de la Pologne depuis la Shoah » est paru en juin 2018 chez Belin. Merci à Rachel Hertel d'être venue aujourd'hui pour parler avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour poursuivre la discussion à partir de ce livre. C'était Mémoire Vive, deux adresses pour nous réécouter, radio-rcj.info et mémoirevive au pluriel.net, ainsi que sur l'application RCJ.